Je suis content de vous retrouver, de vous revoir après au moins 15 jours de séparation. Merci à Aurélien pour la présidence. Pourquoi sommes-nous venus ce matin? Pourquoi est-ce que nous sommes venus ce matin? J'aimerais bien ouvrir avec vous l'épître de Paul aux Romains que nous aurions dû ouvrir ce mardi. Au chapitre 7, le chapitre qui fait suite à Romains 6, 23, qu'Aurélien nous a rappelé avant, comme introduction à la Sainte-Seine, le salaire du péché, c'est bien la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains chapitre 7, et nous lirons les 12 ou 13 premiers versets, les 13 premiers versets. C'est peut-être un passage un peu compliqué, mais on va essayer de l'observer d'un peu plus près. Ignorez-vous, frères, je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi régit l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions sous l'emprise de la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres et nous faisait porter du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime ancien de la lettre. Que dirons-nous donc, verset 7? La loi est-elle péché? Certes non! Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie en moi, et moi, je mourus. Verset 10. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est bon. Donc ainsi la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. On a parfois tendance à fulminer, à râler devant certains règlements du code de la route, par exemple. Mais imaginons un petit peu qu'il n'y ait plus de priorité, qu'il n'y ait plus de feu, qu'il n'y ait plus de panneaux signalétiques annonçant une zone de travaux ou bien une voie de chemin de fer ou bien un tournant dangereux. On peut imaginer la catastrophe. une vie, une société sans règlement, sans loi, va conduire inévitablement à l'anarchie, au désordre. L'un des objectifs de la loi de Dieu, c'est justement de prévenir l'anarchie, de limiter les désordres, de limiter les crimes, les exactions en tout genre, les délits, en vue aussi de plaire à Dieu. Et puis, le deuxième objectif de la loi de Dieu, hormis le fait de limiter tous les débordements, le deuxième objectif lié à la loi, est celui de révéler aux hommes leurs péchés, leur incapacité aussi à respecter cette loi parfaite de Dieu. Et ce, en vue de le conduire vers la grâce offerte par Jésus-Christ. Ce sont les deux objectifs de la loi. Alors on va passer peut-être en revue les quelques versets que nous avons lus. Ignorez-vous, frères, dans un premier temps, que la loi a autorité sur l'homme tant qu'il vit. Lorsqu'un homme est condamné pour un excès de vitesse, à cause peut-être aussi d'une conduite en état d'ivresse, ben, il va être condamné par la loi à devoir payer une contravention. Mais si cet homme en question qui a commis le délit meurt avant de recevoir officiellement cette contravention, ou bien s'il meurt avant de devoir aller au bureau de police pour aller déposer son permis, parce qu'il a peut-être reçu un retrait de permis temporaire, eh bien, s'il meurt, il sera libéré et dégagé de cette loi. Il ne va pas, lui, mort, aller au bureau de police pour déposer son... Il est libéré de la loi qu'il était tenu de respecter, à laquelle il était tenu d'obéir. Un autre exemple, si, par exemple, un criminel est condamné à X mois de prison pour un vol avec violence ayant entraîné des coups et blessures sur la victime, ben, si ce criminel meurt avant que la sanction ne soit effective, il sera encore lui aussi libéré de la loi. Il n'aura plus rien à voir avec la loi. La loi ne va pas aller chercher un mort pour le mettre en prison. La mort le libère de la contrainte légale, de la loi et des obligations qui lui incombent. Dans l'exemple que Paul envisage au verset 2, Paul fait référence à l'application de la loi qui sévit à son époque. Et il prend l'exemple d'une femme, en disant que une femme, effectivement, elle est liée par la loi à son mari jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de son mari. Ce n'est qu'à partir de la mort de son mari qu'elle sera dégagée de la loi. Donc, si du vivant de son mari, elle va en prendre un autre, elle sera, nous dit l'apôtre Paul, appelée adultère. Si par contre, à la mort de son mari, elle vit avec un autre homme, elle ne sera plus considérée comme adultère parce qu'elle sera dégagée, libérée de la législation, liée à son mari. Et la Bible nous dit au verset 4, eh bien que c'est aussi ce qui s'est produit pour nous par rapport à la loi à travers la mort de Jésus-Christ. À cause de nos transgressions, à cause du fait que nous n'avons pas été capables de respecter la loi dans son entièreté, souvenons-nous de ce que dit, je pense que c'est l'apôtre Jacques, celui qui se rend coupable envers un seul de ses commandements se rend coupable envers tous, celui qui pêche contre un seul commandement se rend coupable envers tous. Donc, à cause de la transgression de la transgression de la loi que nous avons commise, eh bien, il y a une sanction qui a été décernée par cette loi. Et cette sanction, comme nous l'avons rappelé à travers nos louanges, nos cultes, durant ce culte de ce matin, la sanction, c'est la mort. nous méritions la mort, le jugement prononcé à notre encontre était la condamnation à mort, mais heureusement, cette sanction qui a été décernée par la loi a été exécutée par un autre, par Jésus-Christ, qui, en mourant sur la croix, a pris sur lui notre sanction, en mourant sur la croix à cause de nos péchés. Galates chapitre 3, verset 13 dit que Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, nous étions des condamnés à mort à cause de la transgression de la loi, mais cette condamnation que nous devions payer, Christ, Jésus, le Sauveur, l'a subi, l'a enduré à notre place. Jésus a donc par là payé notre dette. Alors par notre association spirituelle, par notre identification à la mort de Christ, par notre identification par la foi au Christ crucifié, dès notre conversion, nous échappons à la condamnation de la loi, et en plus de ça, nous sommes libérés, nous sommes dégagés de son gouvernement. Donc, notre identification à la mort de Christ, non seulement nous permet d'échapper au jugement lié à la transgression de la loi que nous avons commise, mais en plus de cela, notre identification à la mort de Jésus-Christ, eh bien, nous libère du gouvernement lié à la loi, puisque nous sommes morts avec Christ sur le plan spirituel. Ainsi, comme pour cette femme dont Paul prend l'exemple, qui a été délivrée de la loi après la mort de son mari, pour en prendre un autre, nous aussi, de par notre identification à la mort de Christ, nous sommes libérés de la loi pour appartenir à un autre, pour appartenir à un autre mari, pour appartenir à Jésus, l'époux, celui que l'apôtre Paul appelle ici dans le verset 4, celui qui est mort et ressuscité, et auquel aussi nous nous identifions. Et cet autre, alors qu'il nous a libérés du gouvernement de la loi de Moïse, nous place sous un régime nouveau qui est le régime de la loi du Christ ou de la loi de l'Esprit, par lequel nous obéissons désormais à Dieu. Verset 7. Que dirons-nous donc ? Poursuit Paul. La loi est-elle péché ? Alors il va s'empresser de dire, loin de moi cette idée. Qu'ainsi n'advienne. Mais, poursuit-il, je n'ai connu le péché que par la loi. Et il va prendre l'exemple de la convoitise. Je n'aurais pas su que la convoitise était péché si la loi ne me l'avait dit, tu ne convoiteras pas. Si la loi m'avait dit, tu ne convoiteras pas. Car, poursuit-il, le péché sans la loi est mort. Le péché sans la loi n'est pas. Il n'y a pas de péché s'il n'y a pas de loi. Ainsi, par exemple, si je marche sur une pelouse dans un parc, si personne ne m'interdit, ou s'il n'y a rien qui m'interdit de marcher sur la pelouse, ben, je ne transgresse aucun commandement, aucun règlement, puisqu'il n'y en a pas. Par contre, s'il y a un panonceau qui indique sur la pelouse interdiction de marcher, et que je foule la pelouse, alors je transgresse le règlement. Voilà ce que l'apôtre tente de démontrer. La loi a révélé le péché, mais s'il n'y a pas de loi, Mais il n'y a pas de transgression et le péché est mort, il n'y en a pas. Voilà donc le rôle de la loi. Paul montre donc par là le vrai rôle de la loi qui est de faire connaître à l'homme le péché qui est en lui. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait déjà souligné bien avant, au chapitre 3, au verset 20. C'est par la loi, avait-il écrit, que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors cette apparition de la loi, c'est ce qu'il poursuit dans son développement, hein, augmente davantage encore la puissance du péché, puisque plus il y a d'interdits, mais plus il y aura de transgressions. Il suffit d'interdire à un enfant quelque chose pour qu'il le fasse. Plus il y a d'interdits, plus il y aura de transgressions. Plus on sera tenté d'aller au-delà de l'interdit. Et donc la loi a augmenté en quelque sorte la puissance, c'est ce qu'il dit, hein, entre les versets 7 à 13, la puissance du péché. Et à cause du péché, suite au péché, la mort s'est introduite. Et l'apôtre Paul s'empresse de dire, mais ce n'est pas à cause de la loi que la mort a été introduite. Pourquoi ? Il précise au verset, je ne sais plus où quel verset, mais que la loi, elle est et elle reste sainte, bonne et parfaite. Donc la mort n'a pas été introduite par la loi, mais la mort a bien été introduite par la transgression de la loi qui est péché. Et donc, la mort qui nous touche tous, qui nous atteint tous, est effectivement liée au péché qui habite en nous. La loi, écrit Paul en Galates au chapitre 3, verset 24, on connaît bien ce verset-là, a été finalement comme un pédagogue, comme un guide, comme un enseignant qui nous montre notre misère spirituelle et qui nous conduit à Christ par lequel, par la foi, nous pouvons avoir la justification. Voilà le rôle, le deuxième objectif de la foi. Premier objectif, limiter la casse, limiter les débordements, limiter les crimes, limiter les délits. Deuxième objectif, nous conduire à Christ, parce que la loi, elle nous montre ce que nous sommes réellement. Nous sommes des pauvres pécheurs, de pauvres pécheurs qui avons besoin d'un élément extérieur pour pouvoir être sauvés, pour pouvoir être justifiés. La loi a été comme un pédagogue, comme un guide, un enseignant qui a révélé notre misère spirituelle et morale afin de nous conduire à la justification par la foi en Jésus-Christ. Deuxième partie, après ce survol des 13 premiers versets du chapitre 7 de cet épître aux Romains, on peut se poser les questions. Sous la nouvelle alliance, quel est le rapport entre la loi et le chrétien ? Doit-on encore respecter la loi ? Quelle utilité conserve la loi pour nous aujourd'hui ? Être libéré de la loi de Moïse signifie-t-il que nous sommes dispensés de la pratiquer ? Ou bien cela signifie-t-il que nous sommes libérés des conséquences de sa transgression ? Suis-je un légaliste ? Ou un moralisateur, si j'observe la loi en tant que chrétien, ou si je continue à observer la loi en tant que chrétien. Et en préparant ce message, j'ai été surpris et étonné de voir le nombre de versets qui encouragent l'observation de la loi, des commandements de Dieu, dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup. On va en citer que trois ou quatre. Peut-être. Jean 14, verset 13, mais aussi le verset 21 et chapitre 15, verset 10. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Paul écrit aux Corinthiens au chapitre 1er, dans sa première épître au chapitre 7, verset 19, l'observation des commandements est tout. L'observation des commandements est tout. Alors on peut se poser la question, mais d'où proviennent ces commandements? De quels commandements s'agit-il? Quels sont ces commandements? Pensez-vous que Paul, Saul de Tarse devenu chrétien, apôtre de Jésus-Christ, ne s'en référait plus à la loi du Lévitique chapitre 18 dans le cadre de l'Église? Eh bien, détrompons-nous. Ce n'est pas en tout cas ce que nous apporte, ce que nous renseigne, ce que nous montre 1 Corinthiens 5, par exemple, dans lequel l'apôtre Paul condamne, en quelque sorte, reproche aux Corinthiens le fait qu'ils vivent dans la débauche. Il écrit « Il y a de la fornication parmi vous » à un tel point qu'on ne la rencontre pas même chez les païens ou chez les nations, parce qu'il paraît que quelqu'un a pris la femme de son père. C'est probablement sa belle-mère, dans le meilleur des cas, s'il y a un meilleur des cas dans cette situation. Ôtez le méchant du milieu de vous. Une expression empreinte de l'Ancien Testament. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors ce que Paul envisage dans ce passage-là n'est autre que l'application du Lévitique, chapitre 18, verset 8. Relisons le chapitre 18 du Lévitique et posons-nous la question, est-ce que tout ce qui est envisagé dans ce chapitre n'est plus d'actualité aujourd'hui ? Et puis, il y a ces paroles de Jésus bien connues, hein, de Matthieu 5, verset 17. « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, dit Jésus, et les prophètes, mais, bien évidemment, je suis venu pour l'accomplir. » On connaît ces versets-là. Et puis, un petit peu plus loin, Jésus va dire « Il n'y a pas la moindre petite lettre de la loi, le yod ou l'iota, qui disparaîtra avant que le ciel et la terre ne passent. » Ben Jésus, il est sans équivoque. Hein? La loi demeure. La loi reste. Je pense qu'il est important quand même de nuancer cette notion de loi. C'est vrai que beaucoup d'exigences rituelles liées à la loi sont tombées. Éphésiens chapitre 2, verset 15, parle de l'abolition des ordonnances rituelles de la loi, comme par exemple la circoncision, ou bien l'observation des purifications liées au péché, ou encore le port des habits sacerdotaux, ou encore le fait d'aller une fois par an à Jérusalem, ou encore les rites liés au sacrifice. Tout cela, effectivement, est tombé. Toutes ces lois cérémonielles, finalement, ne faisaient que préfigurer le Christ, ses actions, ses qualités, ses souffrances, son œuvre. D'ailleurs, selon Hébreux chapitre 8, verset 5, tout cela, toutes ces cérémonies rituelles, n'étaient que les ombres et les images, ou l'ombre et l'image du culte des réalités célestes. Donc tout ce que nous trouvons en rapport avec les rites cultuels de l'Ancien Testament n'était finalement qu'une figure, qu'une ombre, que des ombres, que des images des réalités spirituelles, des réalités futures, des réalités célestes. Ces versets ne sont pas à... On ne tourne pas la page, on ne retire pas ces passages de nos Bibles, mais ces versets ont une portée plus spirituelle pour nous aujourd'hui. Ainsi, par exemple, quand on parle du chandelier à sept branches qui était disposé dans le lieu très saint du tabernacle du temple, c'était une ombre, une figure, une image de Jésus-Christ, lumière du monde. La table des pains de proposition était aussi une représentation de Jésus, le pain de vie. Donc, tous ces éléments qui sont abolis sous la Nouvelle Alliance restent avec une portée spirituelle en quelque sorte. Mais à côté de toutes ces lois cérémonielles qui ont été abrogées, il reste la loi morale du Décalogue, qui ne constitue en fait qu'un résumé des 613 commandements contenus dans l'Ancien Testament. Et cette loi morale, elle n'a pas été abolie. Pourquoi ? Parce que l'éthique de la loi de Dieu reste intemporelle et universelle. Elle ne bouge pas, elle demeure, elle est toujours là. Alors oui, toutes les lois relatives aux rituels cultuels juifs ont été abolies, mais il est évident que la morale qui se dégage de la loi de Moïse, elle demeure en permanence, elle est intemporelle, universelle. La loi est et reste, nous dit Romains 7, verset 12, sainte, bonne et parfaite. Alors oui, nous ne sommes plus sous le régime de la loi, en ce sens qu'elle ne constitue plus pour nous une alliance par les œuvres pour être justifié ou condamné par elle. On n'est plus sous cette loi. Oui, nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi à cause de nos transgressions, parce que Jésus a pris sur lui à la croix la malédiction qui pesait sur chacun d'entre nous. Mais est-ce que le fait que nous ne soyons plus sous la loi signifie que nous soyons désormais sans loi ? Est-ce que le fait que nous ne soyons plus sous le régime de la loi signifie-t-il que nous sommes désormais sans loi ? Qu'est-ce que vous pensez ? On se trompe si on pense ça. Bien sûr que nous sommes encore sous la loi. Bien sûr que nous sommes encore sous la loi. Mais plus sous la loi de Moïse, qui tenait un glaive au-dessus de nos têtes, mais nous sommes désormais sous une loi qui ne nous condamne plus. La loi de Christ, la loi de l'Esprit, qui est supérieure encore en exigence à la loi de Moïse, il faut le relever. La loi du Christ, la loi de l'Esprit, qui demeure supérieure à la loi de Moïse. Il suffit de considérer le sermon sur la montagne en Matthieu 5, où Jésus accentue, amplifie les commandements, par exemple lorsqu'il écrit au verset 43, « Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais Jésus va dire, « Mais moi, je vous dis, tu aimeras ton prochain, mais tu aimeras aussi ton ennemi. » Donc on voit que Jésus, à travers le sermon sur la montagne, va placer la barre encore plus haut. Il va augmenter les exigences de la loi mosaïque, finalement. Alors, c'est une loi, finalement, qui, tout comme la première, est impossible à respecter pour la chair. C'est impossible à respecter. La loi de Dieu, elle est parfaite. Et nous ne pouvons pas, par la chair, nous soumettre, obéir parfaitement à la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi de l'Esprit. Et grâce à cet Esprit de Dieu qui habite en nous lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes rendus capables d'obéir à cette loi de Christ, supérieure en exigence à la première loi, à la loi de Moïse. Alors, il est évident aussi que nous n'observons plus cette loi de Christ avec la crainte d'obtenir ou pas le salut. Mais désormais, nous obéissons et nous nous soumettons à la loi de Christ parce qu'il nous a obtenu par la grâce le salut que nous ne méritions pas. Et donc, si nous nous tournons vers la loi de Christ pour nous y soumettre, pour obéir à ses commandements, nous le faisons désormais non pas par contrainte, non pas par crainte, mais nous le faisons par amour envers celui qui nous a libérés, qui nous a affranchis de la première loi, qui nous condamnait pour nous donner la vie. Alors finalement, on le sait bien, toute la loi, les 613 commandements et le décalogue qui en est un résumé, ont encore été résumés par Jésus en deux commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes les entités de ton être, corps, âme, esprit, pensée, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben oui, parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Et si tu aimes Dieu, tu vas tout faire pour lui plaire. Et automatiquement, toutes les exigences de la première loi et les exigences augmentées par Jésus, elles seront respectées. Jésus a dit au chapitre 14, on va terminer, au chapitre 14, verset 21 de l'évangile de Jean, « Celui qui m'aime garde mes commandements et les applique. La preuve de notre amour pour Dieu, c'est de garder ses commandements et de les appliquer. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui garde mes commandements et qui les applique. Alors il y a aussi les bénédictions, et on va terminer par la lecture de ce verset qu'on trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, verset 25. Les bénédictions, il y en a beaucoup liées à l'obéissance de la loi de Dieu. Et Jacques, dans son épître, nous en laisse une. Jacques, chapitre 1er, verset 25. Jacques 1, 25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc celle de Christ, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Celui-là sera heureux dans ce qu'il entreprendra. L'observation de la loi comporte aussi des bénédictions. Le fait de respecter la loi de Dieu, le fait d'obéir à la loi de Dieu, même sous la grâce, a comme conséquence le fait que nous aurons des bénédictions spirituelles. Celui-là sera heureux dans son action même.